de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. 4 variants de COVID-19 ont été détectés dans la région américaine, a déclaré l'Organisation Pan-Américaine de la Santé. Le service de santé irlandais subit une attaque de ransomware. La junte birmane déclare la loi martiale dans la ville de l'État de Chine. Le Conseil de la sécurité de l'ONU discutera du conflit israélo-palestinien dimanche. Je termine de présenter maintenant le journal complet. Les 4 variantes les plus inquiétantes du COVID-19 ont été détectées dans presque tous les pays et régions américaines. Mais même si elles sont plus contagieuses, rien ne prouve que ces variantes sont plus mortelles. L'expert de maladies infectieuses de l'Organisation mondiale de la santé, Jero Mendes, a déclaré cela via le webinaire de l'Organisation panaméricaine de la santé jeudi heure locale. Les vaccins qui sont injectés dans la région offrent plus de protection contre la variante COVID-19. Mendes a déclaré que la dernière variante, la variante indienne B1617, avait été détectée dans 10 cas dans 8 pays américains, y compris le Canada et les États-Unis. Le service de santé irlandais a fermé vendredi tous les systèmes informatiques pour se protéger contre ce qui a été décrit comme une attaque de ransomware importante, mais n'a pas affecté le programme de vaccination contre le coronavirus. Le directeur général des services de santé a déclaré qu'il prenait des mesures de précaution pour protéger autant d'informations que possible et évaluer comment l'attaque infecterait d'autres services. Une maternité de Dublin a annulé tous les patients ambulatoires vendredi, à l'exception de celles qui sont enceintes de 36 semaines ou qui ont besoin de soins urgents. Le directeur général des services de santé, Paul Reid, a déclaré à la plateforme de diffusion nationale que le programme de vaccination se poursuit car il utilise un système séparé. Reid a déclaré que l'attaque avait principalement affecté les informations stockées sur le serveur central et non les équipements hospitaliers. La junte birmane a déclaré la loi martiale dans une ville de l'État Chine après avoir accusé les terroristes armés d'être à l'origine d'attaques contre les commissariats de police et des banques, selon les rapports de médias d'État vendredi. Face à une opposition généralisée, la junte a continué à maintenir l'ordre au milieu des manifestations quotidiennes dans les villes et des combats dans les états de la région frontalière depuis qu'il a renversé la dirigeante élue Aung San Suu Kyi le 1er février 2021. L'agence de presse de la Birmanie a rapporté que les émeutes dans la ville de Mindat ont lieu mercredi et jeudi impliquant une centaine de personnes utilisant des armes artisanales pour attaquer un poste de police et environ 50 personnes visant la banque économique de la Birmanie. Le rapport des médias a déclaré que les forces de sécurité avaient repoussé l'attaque sans faire de victimes. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion virtuelle sur l'escalade du conflit israélien et palestinien le dimanche 16 mai. La réunion a été reportée après que les États-Unis ont bloqué la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été censée se tenir le vendredi 14 mai. Les États-Unis ont déclaré qu'ils voulaient d'abord laisser du temps à la diplomatie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a souligné qu'il ne bloquait pas la réunion, mais souhaitait seulement la tenir un autre jour. Comme le rapport AFP, les États-Unis ont alors accepté de déplacer le calendrier des réunions d'urgence à dimanche, comme proposé par la Tunisie, la Norvège et la Chine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu deux réunions à huit clos pour discuter des tensions croissantes entre l'Israël et la Palestine la semaine dernière. Au cours de la réunion, les États-Unis, en tant que alliés forts d'Israël, ont empêché les efforts du Conseil de sécurité de l'ONU de publier une déclaration appelant à la fin de la violence. Le représentant américain a déclaré que l'équipe de son pays faisait de la diplomatie dans les coulisses. Selon les États-Unis, la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU sera contre-productive aux efforts de son pays. Pékin soutient la proposition de l'Organisation mondiale du commerce visant à éliminer la protection de la propriété intellectuelle dans le vaccin COVID-19 pour entrer dans la phase de consultation. Le porte-parole du ministère chinois du commerce, Guo Fengguo, a déclaré cela lors d'une conférence de presse régulière à Pékin jeudi, citée par Reuters. Il a déclaré que la Chine travaillerait avec toutes les parties pour participer activement aux consultations et promouvoir conjointement des solutions équilibrées et efficaces. Auparavant, le président américain Joe Biden a soutenu une proposition visant à outrepasser les règles de propriété intellectuelle de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui ouvrirait la voie aux pays pauvres pour produire leurs propres vaccins. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a également exprimé son soutien à l'élimination du brevet du vaccin COVID-19 afin de renforcer la capacité de production mondiale de vaccins. Les données statistiques de Johns Hopkins University of Medicine indiquent que l'Indonésie se classe au 18e rang sur un total de 192 pays qui signalent des cas positifs de COVID-19 dans le monde. Sur la base du site officiel de Johns Hopkins University of Medicine, samedi, il y avait 1,634,285 cas confirmés de COVID-19 dans le pays sur un total de 161,374,425 patients positifs dans le monde. Avec ce chiffre, l'Indonésie a contribué à 1,07% des cas positifs de COVID-19 dans le monde. Le taux de mortalité dans le pays a atteint 47,823 personnes, soit équivalent de 1,43% du taux de mortalité mondial. Et en général, la médecine de l'Université Johns Hopkins a noté que les États-Unis sont le pays avec les cas les plus positifs au monde, à savoir 32,880,252 cas avec 584,994 décès, ensuite lundi, suivi par le Brésil, la France et la Turquie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles viennent de Medan, au nord de Sumatra. L'Agence nationale de recherche et de sauvetage de Medan, ou Basarnas, a déployé 60 personnes pour mener des alertes spéciales pendant l'Idul Fitr 2021 afin de garder les objets touristiques dans la province du nord de Sumatra. Le chef du bureau de Basarnas Medan, M. Toto Mulyono, a déclaré aux journalistes mardi 11 mai à Medan que son parti déploierait également des équipements de recherche et de sauvetage, tels que des voitures équipées de matériel d'évacuation, des bateaux pneumatiques et d'autres équipements. Selon le chef de la section du bureau de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage de Medan, M. Zul Indra, pour les destinations touristiques dans la région du lac Toba, les agents seront à la garde pendant 24 heures. Il a appelé le public à faire attention dans les zones sujettes au glissement de terrain et sujettes à la noyage dans le lac de Toba. La nouvelle suivante vient de Badung, la province de Bali. Afin de prévenir la propagation de COVID-19 et d'être prête à accueillir l'ouverture du tourisme, la zone de destination touristique de la zone du temple Uluwatu à partir du mardi 11 mai a utilisé le kit de test Genos COVID-19. Le lancement de Genos dans la zone extérieure du temple de Uluwatu a également été suivi par le lancement de la billetterie électronique à laquelle assistée par la région de Badung, M. Inyoman Giri Prasta. Il a déclaré que l'installation de Genos était une garantie pour les clients nationaux et étrangers de la préparation de Badung lors de la réouverture du tourisme. Giri Prasta a déclaré que le service de test COVID-19 utilisant la méthode Genos est gratuit et s'applique à toute personne qui voyage au milieu d'une pandémie. Les dernières nouvelles viennent de la région spéciale de Yogyakarta. Le palais de Yogyakarta a décidé d'abolir l'événement traditionnel Grebek Syawal 1442 Hijriah qui devait avoir lieu le 13 mai 2021 pour empêcher la transmission de la COVID-19. Grebek Syawal est une procession de troupes des palais transportant divers aliments en forme de pyramide. Ensuite, les gens se sont bousculés pour obtenir une part de pyramide. Le roi du palais de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, au complexe de Kepatihan Yogyakarta, a déclaré mardi que l'élimination de la tradition Grebek Syawal visait à empêcher le roi du palais de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, au complexe de Kepatihan à Yogyakarta, a déclaré mardi que l'élimination de la tradition Grebek Syawal visait à empêcher les foules susceptibles d'augmenter la transmission du virus. Toutes les activités de mise en scène des voyages organisées au palais de Yogyakarta sont également fermées indéfiniment. Mais pendant cette pandémie, Palais Yogyakarta est actif dans la présentation de contenu sur le palais via les médias sociaux et YouTube Keraton Jogja. Bon, chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 15 mai, la journée du corps régimentaire de Mahajaya. Le commandant de la région militaire Seng Jaya, le colonel Umar Wirahadi Kusuma, en tant que l'autorité exécution de guerre de Jakarta Raya et de ses environs, a publié le 15 mai 1962 le décret numéro 062 en 1962 relatif à la ratification de la création du régiment de Mahajaya. L'inauguration de ce régiment a été effectuée par le chef d'état-major de l'armée, le général Abdul Haris Nasution, le 20 mai 1962. Le régiment Mahajaya, qui signifie le régiment d'étudiants de Jakarta Raya et de ses environs, connu sous le nom de Menwa, était l'un des nombreux pouvoirs civils de défense du pays. Benoît est né au collège en tant que la réalisation du système de défense et de sécurité populaire de l'univers. Benoît est composé d'étudiants qui se sentent appelés à défendre le pays. Le 15 mai 1972, le retour d'Okinawa au Japon. Au cours de l'occupation alliée dominée par l'Amérique au Japon, l'Amérique a déployé ses forces sur les îles d'Okinawa, l'île Bonin, et a pris en charge le mandat des îles, jusqu'à ce que le Japon reprenne sa souveraineté et ses alliés en 1952. Okinawa reste sous l'occupation américaine. L'Amérique a essayé d'être le seul dirigeant à Okinawa. Avec le développement de l'économie et de la politique du Japon, le problème d'Okinawa est finalement devenu le principal sujet de discussion entre les deux dirigeants de ce pays. En novembre 1987, le premier ministre Sato Eisaku et le président Lyndon B. Johnson ont accepté le retour d'Okinawa pour une période de 3 ans. Et le 15 mai 1972, Okinawa est officiellement retourné au Japon. Le 15 mai 2010, Jessica Watson a terminé son voyage autour de son monde. Elle a quitté Sydney le 18 octobre 2009. La jeune fille de moins de 17 ans était considérée comme trop jeune et inexpérimentée pour voyager à travers le monde. Elle prouve ses compétences en navigation. La jeune fille australienne a traversé le Pacifique Sud jusqu'au Amérique du Sud, puis à travers l'océan Atlantique jusqu'en Afrique du Sud. Elle a traversé l'océan Indien et le sud de l'Australie. Après 7 mois de navigation sur l'océan, Jessica Watson a finalement terminé son tour du monde le 15 mai 2010. Elle est devenue la plus jeune personne qui a fait le tour du monde sans escale, seule, sans assistance. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتدائ الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From New York to the world. sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'Indonésie explore la coopération dans les trois domaines avec les États-Unis. Le ministre des Entreprises d'État ou BUMN, M. Erick Thohir, a effectué cette semaine une visite de travail aux États-Unis jusqu'au mardi 11 mai, heure locale, pour explorer la coopération dans les domaines de l'énergie, de la santé et de l'investissement. Dans une déclaration écrite du ministère de BUMN mardi, M. Erick Thohir a assisté à la signature d'un accord entre PT Pertamina, PT Bukit Asam et Air Product and Chemical sur un projet stratégique national de gazélification du charbon. La signature s'est déroulée virtuellement et a réuni des responsables de chaque entreprise en Indonésie et aux États-Unis. Dans la déclaration écrite, Erick Thohir a déclaré que la gazélification du charbon avait une valeur ajoutée directe pour l'économie nationale au niveau macro. Le projet permettra d'économiser sur la balance commerciale, de réduire la dépendance vis-à-vis des importations de gaz de pétrole liquéfié et d'économiser des recherches de change. La coopération en matière de gazélification peut économiser jusqu'à 9,7 billions de roupies par an et absorber 10 000 travailleurs. Le ministre Erick Thohir explore également la coopération entre Pertamina et ExxonMobil dans les domaines du captage et stockage du charbon et du captage, utilisation et stockage du charbon. Cette coopération vise à réduire les émissions de charbon et fait partie des efforts visant à améliorer la récupération de pétrole et de gaz dans les puits de Pertamina afin d'augmenter la production de pétrole et de gaz du pays. Dans le secteur de la santé, Erick Thohir explore la coopération entre la Société indonésienne de soins de santé BUMN Hospital Holding et un certain nombre d'institutions médicales bien connues aux États-Unis. Il s'agit notamment du Centre de traitement du cancer City of Hope National Medical Center, le Centre de gestion de la santé et du bien-être de la communauté des personnes âgées, de l'École de gérontologie de l'Université de Caroline du Sud, ainsi que du Centre de pratique clinique, de recherche et d'éducation de la Mayo Clinic. Erick Thohir a également expliqué que son parti a l'intention d'investir à Sanur, à Bali, qui sera développé en tant que zone économique spéciale pour le tourisme de santé. Dans le secteur de l'investissement, le ministre de BUMN, Erick Thohir, a tenu des réunions avec plusieurs sociétés de capital investissement basées en Caroline pour investir en Indonésie par l'Indonesia Investment Authority. Selon Erick Thohir, les investisseurs potentiels qu'il a rencontrés ont salué l'exposition à l'investissement stratégique dans le programme d'infrastructure de l'Indonésie. Il a souligné que la principale capitale de l'Indonésie est un grand marché et des ressources naturelles abondantes. Mais cela ne suffit pas. L'Indonésie doit créer un climat propice à l'investissement pour stimuler et relancer l'économie. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Tanya-tanya, inginnya ku.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Bienvenue dans l'édition du magazine culturel. Et cette fois, nous allons introduire la nourriture de la ville de Makassar, la banane d'épée. Il y a beaucoup de nourriture à base de banane en Indonésie, comme par exemple la banane épée de Makassar, beignet de banane, banane de rail de Bali, gâteau de banane, banane de molen de Bogor et banane de gapit de Balikpapan. Les nombreux types de cuisine à base de banane, parce que le bananier pousse bien dans presque toutes les régions de l'Indonésie. Et cette fois, nous vous invitons à goûter à la gastronomie typique de la ville de Makassar, la banane épée. Elle est très demandée, vendue souvent autour de la place de l'Osari, de la fin de l'après-midi jusqu'au soir. Cette collation ne peut pas être séparée de l'histoire de la place de l'Osari, située sur Jalan Lama Dukeleng, Makassar. Il y a des centaines de chariots vendant des bananes épées sur cette place de l'Osari, et les gens autour de Makassar appellent souvent la place de l'Osari le plus long restaurant de bananes épées, parce qu'il y a tellement de chariots vendant cette collation. Cette cuisine typique de Makassar est appelée la banane épée parce que dans la langue Bugis, épée signifie pincé, de sorte que la banane épée peut être interprétée comme une banane qui est pincée, aplatie puis brûlée. C'est le processus de fabrication de cette banane épée. Selon le nom, bien sûr, vous savez déjà que les ingrédients de base pour la fabrication de pisang épée ou banane épée sont les bananes, et ce qu'ils utilisent ici sont les bananes raja ou kepok. La raison est que ce type de banane a une texture qui ne contient pas beaucoup de eau, ce qui la rend plus facile à brûler. En plus, cette banane a un arôme distinctif et un goût sucré. Dans le melepasi lebanan EP Nete Vendu Kavek de Saveur Original. Mais aujourd'hui, de nombreux saveurs sont proposées, comme des saveurs de durian, de chocolat, de fromage et de fraises. Les bananes épées sont vendues pour environ 10 000 jusqu'à 13 000 roupies par portion. Jarambi, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Cinta padamu terlalu sayang kepadamu. Kala ku lihat maaf di matamu, ku lukai hatimu. Kala ku lihat janji di hatiku, tak mungkin ku tinggalkan dirimu. Karena kaulah yang terindah.
Chers Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur intitulée « Le nombre d'agriculteurs indonésiens augmente pendant la pandémie ». Le ministre de l'Agriculture, Syahrul Yassin Limpo, a déclaré qu'il y avait au moins 8 millions de nouveaux agriculteurs pendant la pandémie. Cela est dû à la cessation d'emplois vécue par de nombreuses personnes. Selon Syahrul, l'agriculture est l'un des secteurs qui peuvent contribuer positivement lors d'une pandémie. On dit que le besoin de nourriture qui continue d'exister a augmenté. Ainsi, le secteur agricole a créé des emplois. Sur la base des données de l'Agence centrale des statistiques, en 2019, environ 33,4 millions d'agriculteurs étaient engagés dans tous les produits du secteur agricole. Mais parmi ces chiffres, le nombre de jeunes agriculteurs indonésiens n'est que quelques-uns. L'agent de conseil et de développement des ressources humaines agricoles du ministère de l'Agriculture a noté qu'il n'y a que 2,7 millions de jeunes agriculteurs en Indonésie âgés de 20 jusqu'à 39 ans. Cependant, environ 3,4 millions de personnes, soit 91%, ont plus de 40 ans. Le manque d'intérêt de la jeune génération pour l'agriculture est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes agriculteurs sont peu nombreux et ont tendance à décliner. En fait, les jeunes agriculteurs ou la régénération des agriculteurs sont très importants pour le développement agricole national. Il faut un pionnier agricole capable d'attirer la jeune génération pour entrer dans le domaine de l'agriculture. On souhaite que les agriculteurs millénaires puissent augmenter la productivité de la main-d'œuvre, des terres et des produits agricoles. Pour cette raison, le ministère de l'Agriculture a également nommé 67 ambassadeurs des agriculteurs du millénaire et ambassadeurs des agriculteurs de mainstay de plusieurs provinces pour accélérer les efforts de régénération des agriculteurs. Les ambassadeurs des agriculteurs du millénaire se composent de 59 personnes âgées de 19 jusqu'à 39 ans et les ambassadeurs des agriculteurs de mainstay se composent de 8 agriculteurs âgés de plus de 39 ans. Si cela n'est pas anticipé, l'Indonésie pourrait connaître une crise des agriculteurs à l'avenir. Le président Joko Widodo a fermement exhorté les jeunes à ne pas avoir honte d'être des agriculteurs. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici le magazine musical. Nous présentons une chanson de Keroncong intitulée « Tempat Lahirku » chantée par Panji Asmoro. La chanson intitulée « Tempat Lahirku » ou en français « Pays de naissance » est incluse dans l'album de Champion de Keroncong étudiant 85 et 86. Cette chanson raconte de l'amour de la ville natale ou du pays de naissance. Quelle que soit la distance parcourue par quelqu'un, le souvenir de sa patrie ne seront pas oubliés. Bon, chers auditeurs, voici Panji Asmoro avec la chanson intitulée « Tempat lahir » ou en français « La ville natale ou pays de naissance ». Bonne écoute.
Di tengah rawa
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.